On découvre aujourd'hui une préoccupation de plus en plus forte chez beaucoup de gens, chez les croyants en particulier. Et cette préoccupation provoque beaucoup d'enthousiasme chez les uns et beaucoup d'inquiétude chez les autres. Cette préoccupation concerne la construction du troisième temple à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem, vous entendrez des gens qui vous parlent de la construction du troisième temple. Le premier temple, le temple de Salomon, a été détruit. Du temps d'Esdras et Néhémie, un deuxième temple a été construit, mais celui-là aussi a été détruit. On parle donc de construire un troisième temple à Jérusalem. Mais il y a une difficulté essentielle. C'est que le seul endroit où on peut construire le temple, à cet endroit-là se trouve le Dôme du Rocher, qui est un lieu saint musulman. C'est un problème majeur, vous comprenez. Cependant, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent la construction du troisième temple. En 1996, un sondage a été fait en Israël, parmi les Israéliens, et on a découvert que plus de 58% des Israéliens souhaitaient soutenir ce mouvement parmi eux qui poussait pour la construction du troisième temple. Et les plus intéressés à militer dans ce sens étaient les jeunes, la jeune génération. Alors si vous allez à Jérusalem, vous découvrirez qu'il y a beaucoup de conjectures, beaucoup de préparations qui se font en vue du troisième temple. On pourra vous montrer par exemple les ustensiles du temple qui sont déjà prêts, qui ont été fabriqués avec beaucoup de soin en vue du troisième temple. On vous montrera aussi les vêtements des sacrificateurs qui sont préparés pour les prêtres. Mais qui sera prêtre? Difficile de savoir. Alors des recherches génétiques ont été faites pour pouvoir déceler dans la population quels sont ceux qui sont des descendants de la tribu de Lévi, donc attachés au sacerdoce. Si vous parlez avec le rabbin Chaim Richman, il vous dira que les plans du troisième temple sont déjà prêts. Beaucoup de gens se préparent dans la pratique et dans leur esprit à la construction du troisième temple. L'endroit pour le construire n'est pas accessible, c'est le problème majeur. Mais de l'argent est apporté régulièrement de tous les coins du monde pour préparer la construction du troisième temple. C'est dire à quel point dans l'esprit de beaucoup de gens dans le monde, la construction du troisième temple est une réelle préoccupation. Curieusement, cette préoccupation ne touche pas simplement les Juifs, mais aussi un bon nombre de chrétiens qui trouvent dans cette perspective quelque chose qui s'aligne avec leur compréhension de ce qu'ils pensent être le scénario de la fin des temps. Ce scénario ne me semble pas biblique. Et on se souvient que Jésus avait annoncé qu'à la fin des temps, les hommes deviendraient extrêmement matérialistes, portés vers le matériel en premier lieu. Et on comprend effectivement que dans cette perspective, ce soit un temple sur terre que l'on veut reconstruire. Pourtant, vous savez ce que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux a écrit au chapitre 8. Cette parole est claire et je vous invite à la regarder avec moi dans vos Bibles. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Dès le verset 1, il est écrit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le temple, le tabernacle, où est-il ? Dans les cieux. La Bible nous le dit. Pourquoi donc construire un temple humain sur la terre alors qu'il y a un temple dans le ciel qui dépasse les limites même de notre imagination? Un temple qui n'est pas fait par les hommes, nous dit le texte. Un temple construit par Dieu lui-même. Ainsi, le temple dans la pensée biblique revêt une grande importance. Ce n'est pas un but en soi. Le temple est un moyen pédagogique utilisé par Dieu pour enseigner à l'humanité le plan du salut. C'est la raison pour laquelle il y a dans les Écritures sept temples. Le temple est présenté dans les Écritures de sept manières différentes. Si bien que, lorsqu'aujourd'hui on parle de la construction du troisième temple, je pense que ceux qui en parlent sont largement en retard. En ce qui me concerne, j'attends avec impatience l'établissement du septième temple. Alors regardons rapidement ces temples qui sont dans les Écritures, les sept temples du Seigneur dans les Écritures. Le premier, c'est le jardin d'Éden. Il en est question dans Genèse au chapitre 2. Et je vous propose de regarder dans ce chapitre ce qui nous est dit à ce sujet. Genèse, chapitre 2. Vous vous souvenez que le jardin d'Éden était ce lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et c'est exactement ce qu'est le temple de Dieu, le lieu de la rencontre. C'est ainsi d'ailleurs qu'on appelait aussi le temple, la tente de la rencontre. C'est le jardin d'Éden, le premier temple construit par Dieu. Dans Genèse au chapitre 2, il est question, en particulier au verset 9, de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin d'Éden. Dans le sanctuaire, il y a quelque chose qui ressemble étrangement à cet arbre de vie et qui est le chandelier. Le chandelier a sept branches. Regardez maintenant au verset 10 ce qui est écrit. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Un fleuve qui sort du jardin. Curieusement, lorsqu'on regarde maintenant dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47, nous lisons ceci au verset 1er. Ézéchiel, chapitre 47, au verset 1er. Ce texte parle du temple qu'Ézéchiel voit en vision, et à propos duquel il dit ceci. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Lorsqu'Ézéchiel voit en vision le temple qui lui est montré, il y a là aussi un fleuve qui sort du temple. Le premier temple, c'est le jardin d'Éden. Mais il y a dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 15, un texte qui me paraît extrêmement important pour nous orienter vers cette compréhension du rôle du jardin d'Éden. Genèse, chapitre 2, le verset 15, dit ceci. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ces deux mots, qui se trouvent là au début de la Bible, sont extrêmement importants. Ils se retrouvent à d'autres endroits, mais pas dans n'importe quel contexte. Regardez dans le livre des Nombres, au chapitre 3. Nombres, chapitre 3. Il est ici question des prêtres, de la descendance de Aaron, et du service qu'ils doivent accomplir dans le temple. Il est dit au verset 5. Livre des Nombres, chapitre 3, au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'il soit à son service. Ils auront soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. » Remarquez que les deux mots qui sont employés dans notre texte de Genèse pour « cultiver » et pour garder, se retrouve dans ce texte qui parle des Lévites, lorsqu'il est dit au verset 7, « Ils auront soin et ils feront le service. » Ce sont les mêmes mots, employés cette fois-ci dans le contexte directement du temple et du service que les prêtres et que les Lévites vont offrir à Dieu dans le temple. C'est dire à quel point, dans le jardin d'Éden déjà, Dieu avait voulu présenter à l'humanité le premier temple, le premier lieu de la rencontre, le premier lieu de l'adoration de l'homme envers Dieu. Le deuxième temple, vous le connaissez beaucoup mieux, c'est celui que Moïse, instruit par Dieu, a fait construire dans le désert. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, se trouve le début des instructions données pour construire ce deuxième temple. Il est dit au chapitre 25 et au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est exactement en réalité le sens de ce que Dieu veut faire en créant le sanctuaire. Il veut donner en réalité à son peuple le repos. Le repos en assurant sa présence, sa garde, son salut. Dieu qui habite au milieu d'eux, c'est ce Dieu qui les conduit au travers du désert et qui les emmène jusque vers la terre promise. Le temple construit par Moïse, nous le connaissons, nous en avons dans les chapitres qui suivent les détails. Et nous y reviendrons dans un moment parce que la manière dont Dieu va donner les instructions à Moïse pour construire le temple du désert nous parle aujourd'hui encore énormément du repos que Dieu veut donner à son peuple dans son temple. Le troisième temple, nous le connaissons aussi. C'est ce temple que finalement Salomon va construire. David avait conçu l'idée de construire ce temple. Mais vous vous souvenez que Dieu lui avait demandé de laisser cette tâche à son fils. Il avait cependant établi des plans, fait des préparations. Et c'est Salomon qui va construire ce temple. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, au verset 9, il est écrit ceci. Premier livre des Chroniques, chapitre 22, verset 9. « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Vous avez remarqué comment Dieu parle à David de son fils, Salomon. Il lui dit, « Je lui donnerai du repos. » C'est un homme de repos. Et ce n'est pas pour rien, nous le verrons tout à l'heure, que Dieu présente Salomon de cette façon-là. Parce qu'effectivement, le temple, c'est le lieu du repos. Vous vous souvenez que Salomon va construire ce temple d'une façon particulière. Il sera construit dans le silence. On n'entendra pas, dit le texte, le bruit du marteau ou du ciseau. Si vous voulez, pour parler moderne, il l'a construit avec un kit fait d'avance et monté sur place, dans le silence et dans la révérence. Une des sept merveilles du monde, le temple de Salomon. Extraordinaire. À la mesure de la gloire que Dieu avait donnée à ce personnage. Cependant, il va être détruit aussi par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus. Le temple de Salomon, le beau temple de Salomon, qui d'ailleurs reproduisait à bien des égards des images du Jardin d'Éden, avec beaucoup de sculptures de la nature et de représentations de la nature. Ce beau temple de Salomon sera détruit par Nebuchadnezzar, rasé entièrement. Après la déportation, le peuple va reconstruire le quatrième temple, le temple que l'on appelle le temple de Zorobabel, parce qu'il est construit sous la direction de ce gouverneur. C'est le temps d'Esdras et Néhémie. Cyrus va donner en 520 la permission de reconstruire le temple. Et le peuple va reconstruire le temple. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 6, au verset 3, il est dit la première année du roi Cyrus, « Le roi a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des fondements solides. » Le temple va être reconstruit. Et dans le même livre d'Esdras, au chapitre 6, au verset 15, un peu plus loin, il est dit « La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. » Le temple dont il est question ici, c'est le temple dans lequel Jésus va aller. C'est le temple où Jésus va enseigner. C'est le temple où Jésus va faire des miracles. C'est le temple que nous connaissons en lisant les évangiles. Mais curieusement, ce temple va aussi être détruit. Jésus va en parler d'une façon dramatique dans l'évangile selon Matthieu chapitre 23. Au verset 37, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Cette maison sera laissée déserte. Et en effet, en l'an 70, les Romains vont détruire ce temple de Jérusalem. Jésus avait dit à ses disciples, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et effectivement, il ne reste rien de ce temple de Jérusalem. Dans le texte que nous venons de lire, en le lisant minutieusement, nous pouvons nous rendre compte que Jésus fait déjà le lien avec le temple suivant, qui est lui-même. Vous avez remarqué, en parlant de Jérusalem, il dit « Votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le cinquième temple, c'est Jésus lui-même, et c'est le sens du temple. Dans le livre de l'Exode, le texte que nous avons lu tout à l'heure, Dieu avait dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». C'est exactement le sens du nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est effectivement ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu dans ce monde, à la fois homme, à la fois Dieu, pour pourvoir à notre salut, il était avec nous. Ainsi, Jésus, c'est le cinquième temple. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, l'apôtre le précise clairement. Il est nécessaire de le préciser, tout le monde ne l'avait pas compris. Et il va le dire au verset 19 et suivant. Vous vous souvenez, Jésus est en controverse avec ses contemporains à propos du temple. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais il parlait du temple de son corps. Jean précise que Jésus est le temple. Remarquez que Jésus dit bien, « Vous détruisez ce temple. » Ce n'est pas lui qui va le détruire. C'est les hommes qui vont le détruire. Mais lui le relèvera, parlant de sa résurrection. Jésus est ce cinquième temple. Il est l'expression suprême de ce que le temple veut dire, ce lieu de rencontre, d'adoration. D'ailleurs, tous ceux qui de son temps l'ont rencontré et l'ont découvert comme il était le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, ont découvert ces dimensions dans cette relation avec Jésus. Mais le temple qu'est Jésus ne s'arrête pas là. Parce que Jésus voudrait faire des succursales de ce temple-là en chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous trouvons ces passages dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, au chapitre 3 et au verset 17, il est dit « Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Christ veut habiter en nous. S'il est le temple, par conséquent, il veut faire de nous aussi un temple. Et c'est le sens de ce texte que vous connaissez bien dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 6. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 6, au verset 16, il est écrit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes par conséquent l'extension de ce temple qui est Jésus, dans la mesure où, en effet, Christ habite en nous. Le Christ veut s'étendre. Le Christ voudrait que ce temple s'étende en chacun d'entre nous. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle en disant « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Ainsi, ce cinquième temple, qui est Jésus, a de grandes dimensions, a de grandes ambitions pour chacun d'entre nous. Mais Jésus est remonté au ciel. Alors il nous faut parler du sixième temple. Ce sixième temple qui est en fait le premier, le sanctuaire céleste. Ce temple qui est le prototype de tous les autres. Ce temple qui a été montré à Moïse comme modèle pour construire la maquette du désert. Le sanctuaire céleste. Et ce temple est d'une extrême importance parce qu'effectivement, comme nous disait le texte tout à l'heure, il n'est pas fait de main d'homme celui-là. C'est un temple que le Seigneur lui-même a conçu, le premier, le prototype de tous. Dans la première épître de Jean au chapitre 2, nous apprenons ce que Jésus y fait. Première épître de Jean, chapitre 2. Au verset 1er, il est écrit ceci. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus, dans le ciel, remplit pour nous ce rôle d'avocat. Vous connaissez ce passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 33 où il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. » Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Fort de son sacrifice et de ce qu'il a gagné comme autorité, comme victoire, il travaille pour nous. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, se trouve cependant un passage curieux qui nous dit encore ce que Jésus fait dans le ciel. Évangile selon Jean, chapitre 5, au verset 22, il est dit, quelque chose d'ailleurs qui est répété au verset 27 sous une autre forme, mais il est écrit, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Jésus dans le ciel remplit ce rôle d'avocat, d'intercesseur pour nous. Il remplit aussi ce rôle de juge. C'est une grâce de savoir que celui qui est notre juge est en même temps notre avocat. C'est une garantie que nous aurons aussi la victoire dans ce conflit. Ainsi, toutes les préoccupations que l'on peut avoir aujourd'hui pour la construction d'un troisième temple sur la terre, à Jérusalem, vous le comprenez, sont autant de distractions par rapport à l'essentiel. Jésus, par rapport au vrai temple, le sanctuaire céleste. Ce sont autant de préoccupations, d'énergie qui sont centrées sur une gloire terrestre, alors qu'il se passe dans le ciel aujourd'hui quelque chose d'une importance capitale pour la vie éternelle de chacun. Jésus lui-même intercède et juge. Et l'on peut comprendre, que l'ennemi essaye de détourner l'attention de l'humanité de ce qui est essentiel et de ce qui est important. Les Écritures, cependant, attirent notre attention sur ce que Jésus fait maintenant dans le sanctuaire céleste. C'est important parce qu'il revient bientôt et nous avons besoin d'être au clair et de savoir en qui nous croyons. Le septième temple, alors, où est-il ? Le septième temple, il en est question dans les Écritures, c'est la Nouvelle Jérusalem sur la Nouvelle Terre. Regardez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, où précisément une bonne partie de ce chapitre est consacrée à la description de cette Nouvelle Jérusalem. Remarquez que cette Nouvelle Jérusalem, ce ne sont pas seulement des murs, mais ce sont aussi des gens, parce que c'est l'épouse. Cependant, dans cette description symbolique qui est faite, plusieurs choses doivent attirer notre regard. Au verset 22, Apocalypse chapitre 21, verset 22, il est dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Voilà le temple, le dernier temple. Pas temple, parce que Dieu lui-même est son temple. Tournez une page au chapitre 22, et au verset 1er, il est dit ceci. Regardez bien. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois du fruit, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Vous retrouvez dans ce passage ce que nous avions tout à l'heure dans le premier temple, dans le jardin d'Éden. Vous avez l'arbre de vie, vous avez le fleuve qui coule. Vous avez aussi le même vocabulaire. Il est dit au verset 3, « Ses serviteurs le serviront. » C'est l'équivalent ici dans le Nouveau Testament du même mot dont je parlais tout à l'heure qui est utilisé dans le jardin d'Éden pour Adam et dans le livre des Nombres pour les Lévites. C'est le même mot. Nous sommes là dans le septième temple, celui que le Seigneur en réalité nous prépare. Dans le livre Maranatha, à la page 354, je lis ceci. Le jardin d'Éden est resté sur la terre longtemps après que l'homme ait été chassé de ses plaisants sentiers. Lorsque l'iniquité envahit le monde et que la méchanceté des hommes rendit nécessaire leur destruction par les eaux du déluge, la main qui avait planté l'Éden le retira de la terre. Cependant, dans la reconstruction finale, lorsqu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il sera restauré plus glorieux encore qu'il était au commencement. Nous avons fait le tour de l'histoire. Nous avons traversé la grande controverse. Depuis le jardin d'Éden, premier temple, nous voici arrivés au septième temple, celui où le jardin d'Éden sera replacé plus glorieux encore qu'au commencement. Le septième temple, celui où justement Dieu veut donner le repos à son peuple. Le vrai repos, le repos pour l'éternité, le repos de tous ses combats, le repos de sa lutte contre le péché, le repos de savourer la victoire reçue par la foi en Jésus-Christ. Le temple, les temples, tous les temples des Écritures sont tous destinés à nous donner le repos. Ainsi, j'aimerais regarder avec vous de quelle manière Dieu nous invite déjà à recevoir ce repos. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, on le mentionnait tout à l'heure, se trouve la description pour la construction de ce temple. Les descriptions que Dieu va donner, les instructions, plus exactement, que Dieu va donner pour la construction du temple, commencent au chapitre 25 et vont s'étendre jusqu'au chapitre 40. Cependant, la première partie, qui va du chapitre 25 au chapitre 31, est particulièrement intéressante. Dieu va donner ses instructions au travers de 7 discours. Chacun des discours que Dieu va présenter à Moïse, lui donnant les instructions pour construire ce temple, est introduit dans le texte par les mots « L'Éternel parla à Moïse et dit ». Vous retrouvez cette expression 7 fois. Entre le chapitre 25 et le chapitre 31. C'est dire que cette construction du temple va être élaborée en 7 étapes. Et puis viennent les chapitres 32, 33 et 34, qui sont tout à fait différents. Ils vont présenter le péché de veau d'or. Ils vont présenter, ces chapitres, le pardon de Dieu. Ils vont présenter la nouvelle alliance, le renouvellement proposé au peuple après qu'il soit tombé dans le péché, Rien que cette expression « nouvelle alliance » nous oriente déjà vers le plan du salut en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au chapitre 35, ce ne sont plus les instructions, elles ont été données. C'est maintenant la réalisation. La réalisation de ce temple construit en 7 étapes aussi. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la dernière étape des instructions. Exode, chapitre 31. Dans le dernier discours que Dieu fait à Moïse, il dit ceci au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. » Le 7e discours de Dieu pour instruire Moïse sur la construction du temple parle du sabbat, du repos. Mais regardez maintenant la première étape de construction du temple au chapitre 35. La première étape de construction au chapitre 35 dit ceci, verset 1er. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. » Vous avez remarqué à quel point Dieu insiste pour faire comprendre que le repos est au cœur de la construction du temple. C'est la 7e étape des instructions, c'est la 1ère étape de la réalisation. Après avoir compris quel est notre péché, comment Dieu peut le pardonner, en nous proposant la nouvelle alliance, il nous propose de rentrer dans son saint temple. Un temple différent, un temple que lui-même construit. Le temple dans lequel il veut nous donner le repos, le vrai repos. Alors aujourd'hui, nous sommes invités déjà à participer à ce repos. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à garder le 4e commandement, l'observation du sabbat. L'observation du sabbat, c'est rentrer dans le temple de Dieu, c'est rentrer dans ce lieu de la rencontre, c'est rentrer dans cette communication qui nous amène à l'adoration de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Les temples, tous les temples que Dieu a offerts à l'humanité, ont tous pour objectif de nous donner le repos. Ainsi, tout ce qui va détourner notre attention de ce temple que nous attendons, que Jésus lui-même va instaurer dans sa venue, toutes ces distractions ne font en réalité que de nous éloigner de ce qui est essentiel, du plan du salut, dont Jésus-Christ est la pièce maîtresse. Les temples construits de main d'homme n'étaient jamais que des maquettes pour nous montrer à quel point Dieu veut nous donner le repos déjà ici-bas, dans l'attente du repos éternel. Et Jésus avait fait comprendre comment ce repos était accessible. Ce repos, il est accessible lorsque Jésus habite en nous et que nous devenons nous aussi le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi, en habitant dans nos cœurs, que le Seigneur nous donne le repos, qui nous propose le repos chaque sabbat, d'être en harmonie avec l'univers qui adore dans le sanctuaire céleste, en attendant le jour où toute la famille de l'univers, la famille céleste et la famille terrestre, se retrouvera dans le 7e temple pour l'adoration du Dieu éternel pour les jours qui ne finiront jamais. Amen.